France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture. Comme chaque année, en prolongement de Soleil, le rendez-vous protestant, nous nous retrouverons à 16h pendant 6 semaines, chaque dimanche du carême et donc jusqu'au 13 avril inclus. C'est Soleil, le carême protestant 2025 qui est proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Et c'est la pasteur Marie-Pierre Courneau de l'Église protestante unie à Paris dans la paroisse de Montparnasse-Plaisance qui nous conduit pendant ce temps de carême dans les pas de Ruth. Après une première introduction au personnage et avoir travaillé le premier chapitre du livre, nous donnant d'évoquer la mort comme un élan, nous allons sur le chapitre 2 aujourd'hui du livre de Ruth pour y observer une rencontre miraculeuse. Bonjour Marie-Pierre Courneau.
Bonjour.
Nous retrouvons notre couple d'héroïnes, Naomi et Ruth, sa belle-fille étrangère originaire des plaines de Moab.
Nous avions vu dans le premier chapitre que le rapide décès des trois hommes de la famille, le mari de Naomi, Elimelech, et leurs deux fils, laissait, dès le début de l'histoire, les femmes seules et sans enfants. Ces femmes sont confrontées à une situation désespérée, sans issue, celle de ne pouvoir assurer la continuité de la lignée puisqu'il n'y a plus d'hommes pour faire des enfants. En quelque sorte, elles ont failli à leur mission. Même si, bien sûr, elles ne sont pour rien dans la disparition des trois hommes, mais à l'époque, là n'est pas la question. La question, l'enjeu pour elles, c'est de garantir la descendance de la lignée d'Elimelech, le mari de Naomi, pour que les ancêtres continuent de vivre à travers les générations suivantes, il faut qu'elles se succèdent sans arrêt. À ce moment de l'histoire, la mort a le dernier mot et cette famille-là est effacée du monde des vivants. La situation est peut-être encore plus grave, puisqu'Elimelech, sa femme Naomi et leurs deux fils avaient quitté leur village de Bethléem en raison d'une famine et avaient émigré à l'étranger dans les plaines de Moab. Et c'est là que le père et les deux fils sont morts une dizaine d'années après. En plus, donc, de l'arrêt de la descendance et de l'impossibilité de la perpétuation du nom, Elimelech et ses fils ont été enterrés en terre étrangère. Or, le lieu où on enterre les morts est plein de significations. De nos jours, le lieu où reposeront la dépouille ou les cendres des personnes qui nous sont chères est généralement investi de beaucoup de sens par les familles en deuil et même par les défunts du temps de leur vivant. Dans le ministère pastoral, qui est le mien, j'accompagne de nombreuses familles en deuil. Et je suis frappée de voir comment, dans notre société qui a le plus possible effacé dans la vie les traces de la mort, le lieu géographique associé à la mort, ce qu'on appelle la dernière demeure, la demeure éternelle, reste un enjeu. Nombreuses sont les personnes qui ont prévu de leur vivant une place pour le jour de leur mort dans un caveau familial, à côté de leur conjoint ou de leurs proches décédés. Et quand ce n'est pas le cas, on rencontre très fréquemment des familles qui réfléchissent longuement avant de choisir l'endroit où seront déposées les cendres ou le corps de leurs proches défunts. Dans le choix du lieu, les proches essayent de dire quelque chose de la personne décédée, de sa vie, de ce qui était important pour elle, de ses goûts. Et finalement, le fait que la personne défunte ou ses proches soit ou non croyant, qu'il soit ou non porté par l'espérance d'une vie après la mort, modifie peu, me semble-t-il, l'investissement qui est fait sur le choix de l'endroit où sera déposée la dépouille ou les cendres. Il faut dire que ce choix est définitif. On pourrait même dire éternel. C'est évident pour la dispersion des cendres, mais c'est aussi le cas pour la quasi-totalité des inhumations. Il n'y aura pas de déménagement ultérieur. Le caractère définitif de ce choix fait par les vivants vient confirmer le caractère définitif de la mort. Par ce choix, quelque chose de définitif et d'éternel s'installe dans la vie des vivants.
Alors, à l'époque et dans le milieu où se construit le livre de Ruth, il n'y a pas de crémation, il importe que le corps soit mis en terre, me semble-t-il.
Oui, la terre est considérée comme le lieu des morts. Enterrer quelqu'un ou quelque chose, c'est le confier au royaume de la mort. Tout ce qui concerne la terre, alors quand je dis terre, je ne veux pas dire la planète, mais le sol, la boue, la glaise, tout ce qui concerne la terre a donc un côté mystérieux, un peu terrifiant, un peu sacré, comme tout ce qui se rapporte à la mort. Et c'est encore le cas pour nous aujourd'hui. Pour le monde de Ruth, la terre est le lieu des ancêtres, puisque c'est là qu'ils sont depuis qu'ils sont morts. D'où l'importance d'être enterré avec eux dans la même terre, c'est-à-dire chez soi finalement. Pour sécuriser sa dernière demeure auprès des siens, il est nécessaire de posséder la terre où l'on est enterré, d'en être propriétaire, afin d'être sûr d'y rester pour l'éternité et afin d'être sûr que les générations futures y seront aussi enterrées. Élimélec, lui, n'est pas enterré chez lui, et ses fils non plus. La continuité est donc doublement interrompue. Il n'y a pas de descendants, et les derniers représentants de la famille ne sont pas enterrés avec leur père, mais dans une terre étrangère. C'est dans ce contexte que Naomi décide de rentrer à Bethléem. Elle est flanquée d'une de ses deux belles-filles, Moabite, Ruth, qui décide avec obstination de suivre sa belle-mère jusque dans cette terre inconnue d'elle, Bethléem. Nous avions lu la formidable déclaration d'amour de Ruth à Naomi qui fait encore vibrer de nos jours les jeunes couples amoureux et qui est fréquemment lue dans des célébrations de mariage. Pour le plaisir de la réentendre, nous la relisons.
« Car où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et là je serai enseveli. Que Yahvé me maudisse, si ce n'est pas la mort qui nous sépare, toi et moi. »
Nous avions laissé les deux femmes, à la fin du premier chapitre, à l'entrée de Bethléem. Naomi est accueillie par les clameurs enjouées des femmes heureuses de la retrouver. Ce premier chapitre est décidément un chapitre de femmes. Un chapitre qui court depuis la mort, présente dans les premiers versets que rien ne pourra transcender faute d'enfant, jusqu'à une promesse de fertilité et d'abondance, que l'on distingue dans les derniers mots du premier chapitre.
« Et Naomi revint, et avec elle, Ruth, la Moabite, sa belle-fille, revenant des champs de Moab. Et elles entrèrent dans Bethléem, au commencement de la moisson des orges. »
Au commencement de la moisson des orges. Alors, il y a un côté un peu poétique, sans doute. Mais pourquoi cette précision saisonnière, Marie-Pierre Courneau ?
En effet, elle semble superflue. Et elle apporte subitement un côté champêtre, je dirais presque bucolique, à ce récit qui était jusque-là plutôt dans le registre du dramatique, avec sa famine, ses morts, ses stérilités, ses migrations et sa déclaration d'amour absolue. Mais la moisson, c'est le lien avec la terre, cette terre qui est à la fois royaume des morts et terre nourricière. Ces derniers mots nous laisseraient-ils penser que c'est de la terre que viendra le secours ?
Thank you.
avec la pasteur Marie-Pierre Courneau dans Solae le carême protestant, pour parler de Ruth. Et nous écoutons maintenant Nadiège nous lire les premiers versets du deuxième chapitre.
Naomi avait un parent par son mari, un homme de grande valeur, de la famille d'Élimélec, et son nom était Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Je voudrais bien aller au champ et glaner dans les épis derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Naomi lui dit, « Va, ma fille. » Et elle alla, entra et glana dans le champ derrière les moissonneurs. Sa chance fut que ce soit la parcelle de Boaz, lequel était de la famille d'Élimélec.
Alors donc, que le premier chapitre commençait par la mort des hommes, le second introduit un nouvel homme vivant, celui-là, c'est Boaz.
Eh oui, voilà Boaz. Le nom Boaz n'est porté par aucun autre personnage biblique. Et c'est également le cas pour tous les autres noms rencontrés dans le livre de Ruth. Alors, à savoir, par ordre d'apparition dans le livre, Élimélec, ses deux fils Mahlon et Kilion, sa femme Naomi, et les deux belles-filles, Ruth et Orpa. Ces noms sont réservés aux protagonistes du livre de Ruth. Dans le premier verset que nous venons d'entendre, premier verset du deuxième chapitre, la prééminence des femmes est encore assumée. Boaz étant présenté comme un parent de Naomi par son mari, là où la logique biblique attendrait que Boaz soit présenté comme un parent d'Élimélec. Boaz, nous dit le texte, est un homme de grande valeur. Voilà qui est posé, incontestable. Il n'y aura pas de suspense pour savoir si Boaz est un méchant ou un gentil. Le suspense est ailleurs. Y aura-t-il une fin heureuse? Et si oui, quelle sera-t-elle? Pas forcément celle qu'on attend. Et par quelle voie y arrivera-t-on? Dès que Boaz, ce nouveau personnage masculin, entre en scène, d'abord seulement par évocation, Ruth prend la parole. C'est la deuxième fois, depuis le début de l'histoire, qu'elle prend la parole. La première, c'était sa déclaration d'amour à Naomi. Et Ruth suggère d'aller glaner dans les champs. On aura remarqué que le texte précise « Ruth, la Moabite, dit à Naomi. » Même arrivée et installée à Bethléem, Ruth est encore l'étrangère, celle de Moab, et il est encore nécessaire de le préciser. Mais venons-en au glanage.
Alors justement, Marie-Pierre Courneau, pourquoi Ruth veut-elle glaner?
Pour assurer sa subsistance et celle de Naomi, sa belle-mère. Il nous faut dire un mot de la condition des veuves dans le Proche-Orient ancien. Les femmes doivent être sous l'autorité ou la protection, disons, d'un homme. Leur père d'abord, puis leur mari ensuite, et en cas de veuvage, plusieurs possibilités s'offrent à elles. Être sous l'autorité de leur fils, s'il y en a un en âge de remplir cette fonction, ou bien retourner vivre chez leur père, ou bien sûr se remarier. Pour Naomi et Ruth, rien de tout cela. Naomi n'a plus de fils, vraisemblablement plus de père, et elle a elle-même dit, au premier chapitre, être trop âgée pour plaire à un homme. Ruth n'a pas de fils, elle a obstinément refusé de retourner dans sa famille et elle n'a pas de nouveau mari. Elles sont donc toutes les deux sans ressources, dans une situation de précarité et de marginalité extrême, sans personne pour s'occuper d'elles et subvenir à leurs besoins. Il est bien entendu hors de question que des femmes gagnent leur vie et soient financièrement autonomes. Il ne leur reste donc pour survivre que l'aumône publique. Et justement, le glanage est une déclinaison de l'aumône publique. Glaner, c'est ramasser dans les champs, après le passage des moissonneurs, des récoltes qui autrement seraient laissées dans le champ et ne seraient pas ramassées. Ce qui est glané n'a pas été récolté, soit parce que cela n'a pas été jugé suffisamment beau ou suffisamment bon, soit parce que cela demanderait trop de travail de le récolter, soit, dans notre monde moderne, parce que c'est ce qui reste après le passage de la machine agricole. Le glanage est très présent dans la Bible et la Bible encadre cette pratique. Elle enjoint de laisser des récoltes non ramassées dans les champs à destination des glaneurs et elle définit les personnes qui ont le droit de glaner. Ce n'est pas tout le monde. Le glanage, c'est pour les pauvres, les étrangers, les émigrés, les orphelins et les veuves. Notre Ruth cumule les critères ouvrant droit au glanage. Elle est pauvre, elle est étrangère, elle est émigrée, elle est veuve. Et on peut presque la considérer comme une orpheline puisqu'elle a refusé de rentrer dans sa famille. De nos jours, il existe encore des sociétés ou des milieux où le glanage est habituel. Et on peut alors voir des équipes de glaneurs et de moissonneurs avancer simultanément dans le champ, une équipe derrière l'autre, se suivant de quelques mètres. Mais l'ordre de priorité reste invariable et inaltérable. Les moissonneurs devant, les glaneurs relégués derrière, prenant ce qui reste. Ruth, la suiveuse, qui dans un premier temps, dans le premier chapitre, était derrière Naomi, se retrouve maintenant derrière les moissonneurs. En plus, le glanage nécessite de se courber au sol pour ramasser de la nourriture qui a été mise au rebut, de la nourriture destinée à disparaître par pourriture ou par ensevelissement. On pourrait presque dire que Ruth se baisse jusqu'à terre pour ramasser de la nourriture future cadavre. Il y a dans cette position quelque chose de doublement humiliant. Passer derrière et se baisser à terre. D'ailleurs, si le droit au glanage est protégé dans la Bible et bien encadré, l'opération semble quand même périlleuse. Pour qu'elle puisse glaner en toute sécurité, il est nécessaire, précise Ruth, de glaner derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et en effet, on imagine aisément que des jeunes femmes pauvres et démunies, étrangères ou immigrées, venues chercher quelques grains pour se nourrir, puissent être molestées dans un champ par un propriétaire ou un moissonneur. Mais la chance étant du côté de Ruth, elle a été glanée dans le champ de Boaz, ce parent éloigné, cet homme de grande valeur. La Bible ne nous en dira pas plus sur cette chance. Et chacun est libre de remplir la dimension chance de ce qu'il veut.
Ruth, la pourvoyeuse de vie dans Solael Carême Protestant, avec aussi la très belle musique d'Alessandro Sgobbio et son album Aphorismi Protestanti. Pasteur Marie-Pierre Courneau, si nous poursuivions la lecture du deuxième chapitre en allant au verset 4.
Et voici que Boaz arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que Yahvé soit avec vous !» Ils lui dirent, « Que Yahvé te bénisse !» Boaz dit au chef des moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le chef des moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite, celle qui est revenue avec Naomi des champs de Moab. Elle a dit « Je voudrais bien glaner et ramasser entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est venue et n'a pas arrêté depuis ce matin jusqu'à maintenant.
La chance étant décidément au rendez-vous de Ruth, Boaz, l'homme de grande valeur, arrive pendant qu'elle glane. Ses premiers mots nous apprennent que c'est un homme pieux qui en appelle à Yahvé. Par cette salutation échangée avec son chef des moissonneurs, Dieu est présent dans le champ d'orge, il préside à tout ce qui va s'y dérouler. Boaz a tout de suite l'œil attiré par la nouvelle jeune femme qui glane dans son champ et qu'il ne connaît pas. Sa question reflète les habitudes de l'époque. À qui est cette jeune femme ? Il ne connaît pas encore Ruth, il ne sait pas qu'elle n'appartient à personne, en tout cas à aucun homme. Elle appartient tout entière à la promesse qu'elle a faite à Naomi, et on le verra à sa vocation d'offrir une descendance à sa famille. Ensuite, fait tout à fait inhabituel, Boaz, le riche et puissant propriétaire du champ, qui a même sous ses ordres une équipe de moissonneurs dirigée par un chef, s'adresse à la glaneuse.
Boaz dit à Ruth, « N'entends-tu pas, ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ et ne sors pas de celui-ci. Tu t'attacheras à mes servantes, que tes yeux soient dans le champ qu'on moissonne, tu iras derrière elles. N'ai-je pas ordonné aux serviteurs de ne pas te molester ? Et quand tu auras soif, tu iras vers les cruches et tu boiras de ce que les serviteurs puiseront. » Et elle tomba face contre terre et se prosterna. Elle lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu me distingues, moi, une étrangère ?»
Boaz a ici une attitude pleine de générosité, Marie-Pierre Courneau.
Pour qu'elle n'ait pas à chercher un champ accueillant, Boaz officialise, pourrait-on dire, sa position de glaneuse dans son champ et met tout en place pour qu'elle puisse glaner sans risque d'être agressée. Il la sort ainsi de sa précarité, lui donnant un statut et la sécurité. Et on retrouve dans cette histoire tous les marqueurs de la précarité qui sont universels et encore modernes. Quand trouver de quoi se nourrir nécessite de courir à droite, à gauche et de se mettre en danger. Mieux encore, Boaz ordonne à ses employés de se mettre au service de Ruth, de lui servir à boire. Ruth n'en croit pas ses oreilles et elle interroge Boaz sur cette conduite tout à fait hors norme envers une glaneuse. Nous écoutons la réponse de Boaz.
À l'heure du repas, Boaz lui dit « Approche-toi ici, tu mangeras du pain et tu le tremperas dans la sauce. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et il lui tendit des graines grillées. Elle mangea, fut rassasiée et elle en eut de reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz ordonna à ses serviteurs « Elle glanera aussi entre les gerbes et vous ne la malmènerez pas. De plus, vous laisserez pour elle des épis ôtés des poignets. Elle glanera et vous ne la menacerez pas. »
La réputation de Ruth l'a précédée à Bethléem. Son extraordinaire serment à Naomi est connu. Dans cette journée où tout est improbable, Ruth est accueillie et nourrie à la table commune. Elle est ainsi intégrée dans la maisonnée de Boaz. Et le récit nous rappelle encore que cela lui évite les dangers de devoir dépendre de l'aumône pour se nourrir. Plus encore, Boaz demande à ses moissonneurs de lui laisser des épis déjà moissonnés, volontairement. Décidément, tout le monde est à son service, serviteur comme moissonneur. Alors, on est en droit de se demander si ce ne serait pas un coup de foudre qui expliquerait cet étrange comportement de Boaz envers Ruth. On peut se souvenir que dans la Bible, la présence de Dieu est souvent annoncée par du tonnerre et des éclairs, et cela peut être légitime, cette possibilité que Boaz ait reçu un coup de foudre en voyant Ruth. Ce deuxième chapitre, qui raconte une journée à la campagne, une journée de moisson, de l'orge, pourrait sembler tout à fait ordinaire et habituel. Mais il n'en est rien. Tout dans ce récit est transgressif. Après la rencontre miraculeuse de Ruth et Boaz, c'est Boaz qui est aux commandes. Comme c'était le cas dans le premier chapitre avec Naomi et la loi biblique du Lévirat, Boaz va au-delà de la loi biblique sur le glanage. Sans remettre en question son sens premier de solidarité envers les personnes démunies, il la dépasse pour lui donner une autre dimension, celle de l'accueil et de l'intégration. Comme la personne qui en bénéficie est aux marges de la société, une femme, veuve, étrangère de surcroît, on peut parler, je crois, d'accueil radical. Mais la journée touche bientôt à sa fin.
Et alors, retour à la lecture du texte, Ruth chapitre 2, à partir du verset 17.
Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Elle bâtit ce qu'elle avait glané et il y eut un grand sac d'orge. Elle l'emporta et alla à la ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Puis Ruth sortit ce qu'elle avait de reste, une fois rassasiée, et lui donna. Sa belle-mère lui dit « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Que celui qui t'a reconnu soit béni. » Elle annonça à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et elle dit « Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni, lui, par Yahvé, dont la bonté n'abandonne ni les vivants ni les morts. » Et Naomi lui dit « Cet homme est notre proche parent, c'est un de nos racheteurs. » Ruth, la Moabite, dit « De plus, il m'a dit, tu t'attacheras à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute ma moisson. » Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes afin qu'on ne te rudoie pas dans un autre champ. » Elle s'attacha aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et de la moisson du blé. Elle habitait avec sa belle-mère.
Nous nous pencherons largement la semaine prochaine sur la coutume du battage du grain ainsi que sur celle du racheteur.
Mais donc pour conclure ce deuxième chapitre aujourd'hui, Marie-Pierre, que pouvez-vous nous laisser ?
Nous pouvons dire deux choses. D'abord, alors que le premier chapitre était un chapitre de mouvement, de migration, chaque personnage étant pris dans un élan de déplacement pour aller ou retourner quelque part, le deuxième chapitre est un chapitre d'implantation, de permanence. Naomi et Ruth s'installent à Bethléem, y restent toute la durée de la moisson de l'orge, puis de celle du blé. Et cela n'est possible que grâce aux transgressions mises en place par Boaz. Ensuite, on peut dire que, alors que le premier chapitre était un chapitre de famine, d'insécurité, de mort, de vide, le deuxième chapitre est un chapitre de nourriture, d'abondance, de confiance, de plein. Il n'est pas anodin que ce retournement de situation ait lieu en contexte agricole. La terre, monde des morts, offre, par la récolte, la vie au monde des vivants. Le troisième chapitre sera celui de toutes les transgressions, dans le monde des humains, dans le monde des morts et dans le monde du divin. Alors, à la semaine prochaine.
Merci, pasteur Marie-Pierre Courneau. À la semaine prochaine, évidemment, même jour, même heure, même lieu, dimanche, 16h, sur France Culture. Soleil le carême protestant vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation et à Nicolas Depagraf pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture, bien sûr, ainsi que sur l'application Radio France. Mais vous pouvez également retrouver tout cela sous forme de livre « Ruth, la pourvoyeuse de vie ». C'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Olivier Tan, qui reprend l'ensemble des interventions de Marie-Pierre Courneau pour ce carême protestant. Et il est disponible déjà sur leur site www.édition au pluriel tiré du milieu olivetan olivetan.com. Et maintenant sur France Culture, vous retrouverez le carême catholique.